de cette délinquance. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec des policiers, ce que je fais fréquemment pour les entretiens, quand vous leur demandez en entretien, et alors ça marche sur la petite délinquance, bah, qu'est-ce qui ressort de leur discours? Vous avez des expressions comme « tonneau des Danaïdes », « mythe de Sisyphe », on fait un travail de Sisyphe, c'est un puits sans fond. Bah oui, vous pouvez arrêter autant de petits dealers que vous voulez en bas d'immeuble, si on n'agit pas sur ce qui produit tout cela, vous avez les gens qui viennent les remplacer. Alors, très clairement, ça va sur un échec. Mais c'est le problème, on pourrait dire, bah, c'est un échec politique, bah, c'est pas grave, on fera autrement. Ben non, le problème, c'est que la situation s'aggrave. Elle s'aggrave parce que ça a des effets. Tout ce qui est en train de se passer, par exemple, le fait de choisir l'option policière pour régler des questions qui ont à voir avec une petite délinquance elle-même étroitement liée à la misère sociale, ça a des effets sur cette misère sociale et sur les comportements. Alors, vous avez un accord assez général pour dire, bon, ben, si on veut s'occuper de la petite délinquance, de ces petits désordres de quartier, il faut une police présente de manière continue, alors ce qu'on disait, une police connue et reconnue sur un territoire. C'est ce qu'on appelle le community policing en Angleterre, à Chicago, en Hollande. C'est-à-dire, c'est l'idée que vous avez des policiers qui, tout simplement, connaissent un territoire et sont connus sur ce territoire. C'était pendant longtemps, en France, le modèle de la gendarmerie, qui était connue dans les villages, qui connaissait les gens, etc. Bon. C'est l'idée que ces policiers-là vont pouvoir faire de la répression, mais vont pouvoir intervenir depuis, attention, jeter à l'œil, à l'admonestation, je vais le dire à ton père, à jusqu'à, je vous dis, la répression, l'arrestation, etc. Et que c'est ça, finalement, qui est efficace. Ça a été ce qui a été expérimenté en 98 à partir de la police de proximité, et puis, de manière plus récente et plus discrète, à partir de 2008, avec les UTEC, les unités territoriales de quartier, et puis, rebaptisées en août dernier, les BST, brigades spécialisées territoriales. Sauf que, choisir, je vous ai expliqué que mes chefs policiers étaient d'accord là-dessus, eux-mêmes n'agissent pas librement sans avoir à rendre des comptes au niveau d'un État qui lui-même est en pleine refonte. Et là, l'économique qu'on avait chassé tout à l'heure, vous oubliez, on l'a enlevé, bah, il revient par la fenêtre, au grand galop, et ces policiers doivent mettre en place des réformes de police alors qu'on supprime des fonctionnaires de police. Vous en avez 8000 qui ont été supprimés dans les 3 dernières années et on pense en supprimer 8000 supplémentaires dans les années qui viennent, d'ici 2014. Et donc, comment allez-vous déployer des réformes de police qui sont extraordinairement coûteuses en effectifs? C'est-à-dire que mettre des policiers connus sur un territoire, c'est très glouton en effectifs policiers. Il vous faut beaucoup de policiers. Et bah, tout simplement, ils se retrouvent dans une voie sans issue qui fait que les policiers vont fuir vers un autre modèle d'intervention qui est celui de la police d'intervention. Et je vais vous donner un chiffre qui, je crois, est assez clair. Les circonscriptions de police sont divisées en îlots. Une circonscription, c'est 20 îlots à peu près. Il vous faut, pour avoir des gens à pied, 3 policiers par îlot. Donc ça veut dire 60 policiers pour votre circonscription. Bah, avec 2 brigades anticriminalité, vous couvrez en voiture l'ensemble de la circonscription. C'est-à-dire 6 policiers contre 60. Le calcul a été très vite fait. On a mis l'accent sur la police d'intervention. Et la police d'intervention, c'est très efficace pour faire de l'intervention, mais par contre, pour résoudre des petits désordres quotidiens, c'est absolument antifonctionnel. C'est-à-dire que vous avez des unités qui interviennent, si vous voulez, très rapidement, très violemment, pour constater très souvent rien du tout. Donc pour faire un contrôle d'identité, le énième dans la journée. Et vous avez petit à petit des relations rugueuses qui s'établissent entre bandes de jeunes qui se font contrôler plusieurs fois et bandes de policiers. Vous avez une espèce de rivalité mimétique entre police d'intervention et groupe de jeunes. Et comment est-ce qu'on sort de ces relations de plus en plus rugueuses entre policiers et jeunes? Bah, tout simplement, avec un sous-effectif, on a l'escalade technologique. C'est-à-dire, les policiers étant dans des situations de plus en plus difficiles, en sous-effectif, on leur donne de plus en plus de matériel d'intervention. Les dernières en date, c'est les flashballs, c'est les tasers. Flashballs, ça tire des balles en caoutchouc, des balles de gomme. Les tasers, des charges électriques. Et on est dans une dynamique, une véritable dynamique de ce point-là, d'escalade. Alors, je reviens, donc vous voyez, non seulement vous avez une stratégie politique qui porte en elle-même les germes de son échec, c'est-à-dire ça ne va pas marcher, puisque on prétend agir sur quelque chose, alors qu'en fait on n'agit pas sur les causes qui en sont à l'origine. Bon. Ça radicalise les situations. Ce qui est le cas, et ce qu'on a vu d'ailleurs dans les émeutes les plus récentes, où vous avez une radicalisation des situations, et notamment des contacts entre jeunes et institutions. Et en plus, politiquement, c'est sans doute catastrophique, puisque vous faites votre campagne sur « je vais obtenir des résultats en la matière », et que vous ne pouvez pas en obtenir. Ça donne la porte ouverte très facilement pour l'opposition qui vous dit « ça marche pas ». C'est exactement ce qui est en train de se passer en France, mais qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays. Par exemple, on le voit aujourd'hui, Nick Clegg, le vice-premier ministre libéral-démocrate, son premier discours en Grande-Bretagne, ça a été mettre davantage de sécurité n'a pas rendu nos rues plus sûres. Nous allons finir avec la société de surveillance mise en place par les travaillistes. On le voit aux États-Unis aujourd'hui, où le Texas, qui est quand même l'un des États les plus conservateurs et les plus durs sur les questions pénales, abandonne des programmes de construction de prisons pour mettre des programmes, attention, vous êtes assis, d'aide aux addictions, drogue et alcool, qui sont considérés comme plus efficaces. La Californie, pour des raisons budgétaires en partie, vide ses prisons et ouvre des programmes sociaux et de santé publique. Bon. Donc c'est à la fois un échec, et je terminerai là-dessus, parce que je crois que c'est sans doute amusant, c'est que la seule, finalement, vous voyez, le seul exemple de gouvernement par l'insécurité qui a marché, c'est en fait l'invention du purgatoire au XIIe siècle. C'est, vous savez, l'invention du purgatoire, ça n'existait pas. Le purgatoire n'existait pas, et vous avez des clercs catholiques qui, au XIIe siècle, se sont dit, aussi longtemps qu'il y a l'enfer pour les méchants et le paradis pour les bons, c'est pas terrible, on peut pas faire grand-chose. Mais dès lors que vous inventez un lieu au milieu, sujet à négociation. Et que, précisément, dans ce lieu où on négocie, ben, y a un négociateur, ça s'appelle l'Église. Ben, ça a été un lieu extraordinairement puissant pour asseoir la puissance politique de l'Église dans l'ensemble de l'Occident. Sauf que la question du purgatoire, on s'expose un peu moins facilement au démenti par les faits qu'en matière de lutte contre la délinquance.
Je ne pensais pas qu'on allait prendre une telle défense de la police et de l'Église dans cette émission. Est-ce que vous avez des observations, j'espère, à faire sur ce que vient de nous dire Laurent Bonelli si brillamment?